au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour et merci d'avoir choisi Canal Académie. S'il est dit de François Ier, enfin, l'ordonnance de Villers-Cotterêts le 15 août 1539 rend obligatoire le français dans tous les actes officiels du pays, si le rapport de l'abbé Grégoire à la Convention le 4 juin 1794 tente de faire disparaître tous les patois de France, si au contraire, depuis 1951, la loi d'Exon propose de rechercher les moyens de favoriser l'étude des langues et des dialectes locaux en France, et s'il existe, comme vous le savez, une délégation générale à la langue française et aux langues de France, DGLF-LF, il n'en reste pas moins que les langues de France, les langues régionales, si elles sont menacées, n'ont pas disparu. Récemment encore, il était question de les mentionner comme patrimoine dans la Constitution française, ce qui a soulevé un débat passionné. Vous l'avez compris, c'est des langues de France que nous allons parler dans cette émission, en compagnie d'une des linguistes les plus renommées de notre pays, Henriette Walter, qui a publié à la fin de l'année 2008 un ouvrage intitulé « Aventures et mésaventures des langues de France aux éditions du Temps ». Henriette Walter, bonjour.
Bonjour.
Et merci de revenir dans le studio de Canal Académie où vous nous avez déjà gentiment offert toute une série d'émissions.
C'est un grand plaisir pour moi.
La première chose que j'ai comprise en lisant votre livre, c'est que pour une linguiste comme vous, il n'y a pas de différence entre une langue, un dialecte, un patois. Alors expliquez-nous.
Je crois qu'il faut insister là-dessus parce que très longtemps, les gens ont pensé qu'un patois de France, c'était de la langue française mal parlée. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Normalement, il y a d'un côté la langue française, qui est une langue d'origine latine, avec beaucoup d'influence, beaucoup de gens qui s'en sont occupés, qui l'ont normalisée, qui l'ont illustrée par de la très belle littérature, de la poésie, etc. Donc d'un côté, cette langue française qui est devenue la langue de l'État, la langue de la France. Et puis, il y a eu d'autres langues. Il y a eu d'autres langues dont certaines sont beaucoup plus anciennes que la langue française. Certaines venant du latin et certaines d'origine différente. Alors, pour en revenir à patois et dialecte et langue, un patois, un dialecte, une langue, tout ça, c'est des langues. Ça veut dire quoi, une langue? Une langue, c'est un instrument de communication qui a une structure particulière puisqu'il y a deux parties différentes. Il y a d'un côté ce que nous appelons normalement les mots, c'est-à-dire une forme phonique ou écrite et une forme sémantique, c'est-à-dire un sens. Un sens, ça renvoie à quelque chose du monde ou une notion intellectuelle, etc. Ça, c'est les mots. Nous les appelons des monèmes, mais peu importe, on peut dire les mots. Et puis, chacun de ces mots est formé d'autres éléments très particuliers qui sont typiques des langues. Nous les appelons des phonèmes, c'est-à-dire que ce sont des sons distinctifs. C'est-à-dire que grâce à la différence entre deux sons distinctifs, on peut établir l'existence de deux mots différents juste parce que ça se distingue par ce phonème-là et pas par un autre. Par exemple, si on veut faire la différence entre « je suis en train de voir un pont », est-ce que je vois un pont ou est-ce que je vois un bon ? Ah, je ne vois pas les deux d'un coup. Ou bien je vois un pont avec un « p », avec un phonème « p », ou bien je vois un bon. Un bond, c'est quoi le bond de quelqu'un qui saute, ou bien un bond à tirer, ou une chose comme ça. Et entre les deux, il n'y a rien. Entre peu et be, il n'y a rien. C'est-à-dire que si je prononce mal, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous avez dit? Et je vais répondre, attendez, j'ai dit pont, je n'ai pas dit bon. Et là, c'est essentiel. Bon, alors ça, c'est l'essentiel des langues, d'une langue, de n'importe quelle langue. Alors maintenant, on peut distinguer entre un dialecte et un patois. Qu'est-ce que c'est qu'un dialecte? Un dialecte est formé d'une certaine quantité de patois. C'est-à-dire qu'une langue s'est différenciée parce qu'elle est arrivée sur un terrain où les gens parlaient d'une autre langue précédemment, etc. Elle s'est différenciée en plusieurs dialectes. C'est ainsi que le latin s'est différencié en normand, champenois, provençal, gascon, franco-provençal, etc. Et donc, il y a eu donc ces différenciations. Et cette différenciation a été encore augmentée au moment de la féodalité, puisque les gens qui habitaient dans une certaine région fréquentaient surtout leurs voisins autour du château. Et donc, il y a eu ainsi patoisisation, si on peut dire, c'est-à-dire qu'il y a eu encore des différenciations, un petit peu plus petites. Voilà pourquoi on peut dire qu'un patois, c'est plus petit qu'une langue, du point de vue du territoire, et aujourd'hui, c'est plus petit du point de vue aussi du nombre de personnes qui les parlent. Parce que, évidemment, mon livre s'intitule « Aventures et mésaventures des langues de France », elles ont eu des mésaventures.
Alors, vous l'avez compris comme moi, il faut brancher les linguistes comme Henriette Walter sur le sujet. Ils sont inépuisables et passionnés. En tout cas, Henriette Walter, combien de langues de France sont actuellement répertoriées et sur quels critères définit-on une langue de France ?
Alors, voilà. Le travail qui a été fait par Bernard Cerchilini, il y a quelques années, avait établi 75 langues. Alors, évidemment, parmi ces 75 langues, il y en a quelques-unes qui sont très parlées, qui ont un grand impact, nous dirons, et puis il y en a d'autres qui sont parlées par quelques dizaines de personnes. Donc, on ne peut pas véritablement... Voilà pourquoi...
C'est pas le nombre
généralement,
qui fait
c'est pas le nombre. Exactement.
Ça, c'est
pas le nombre.
Alors,
de
quel
personnes.
Est le critère ?
Le critère, ce sont des langues qui sont parlées sur le territoire. Alors, depuis quand ? Le problème, c'est celui-là. Pour ma part, je n'ai établi, pour mes langues de France, dans ce livre, je n'ai établi que des exemples de langues existant sur le territoire depuis longtemps, depuis des siècles.
Voilà. Alors, par territoire,
donc,
on entend aussi
la France et ses départements d'outre-mer, bien entendu.
Absolument.
Et oui, bien sûr.
On
ne les oublie pas. Je n'ai malheureusement pas pu, parce qu'il ne fallait pas faire un livre beaucoup trop gros, je n'ai pas parlé des territoires d'outre-mer. Je n'ai parlé que des départements d'outre-mer, ce qui m'a permis de parler des langues les plus récentes du monde, les créoles.
Parfait. Alors maintenant, parlons, Henriette Walter, des origines de ces langues de France. 75, donc, selon le rapport en 1999 de Bernard Cerchilini. Elles sont multiples, ces langues de France, mais dans votre livre, vous les distinguez en trois grandes catégories, disons, les langues d'origine celtique, les langues d'origine germanique et les langues d'origine latine. Alors, si vous voulez bien, on peut d'abord parler de celles qui ne sont pas issues du latin, c'est-à-dire celles qui seraient d'origine celtique.
Oui,
peut-être
qu'on pourrait parler, parce qu'avant l'arrivée des Celtes, il y avait d'autres populations qui vivaient sur notre terre.
Oui.
Et c'était ceux qu'on a appelés les Aquitains, et qui sont les ancêtres des Basques.
Des Basques.
Donc,
Le Basque,
c'est une langue très curieuse, très intéressante, puisque c'est la plus vieille. C'est la plus vieille des langues de France. Elle présente cette curiosité qu'elle a résisté à tout, même malgré le fait qu'elle n'ait été écrite que très récemment. C'est-à-dire que si on fait un petit peu de chiffres, hein, si on donne des dates, si on pense aux premiers Indo-Européens qui arrivent en Gaule, ces Celtes que nous appelons en France les Gaulois, ils arrivent vers le milieu du premier millénaire avant Jésus-Christ. Mais quand ils arrivent, ils avaient été précédés par les Aquitains qui étaient là et qui parlaient une langue différente. Et donc, c'est ceux qu'on a appelés les Aquitains et qui parlaient cette langue que nous appelons maintenant la langue basque. Comme vous savez peut-être, basque et gascon, c'est le même mot qui a été prononcé autrement. Bon, mais ça, c'est peut-être...
Est-ce que le basque est le même des deux côtés des Pyrénées,
alors,
en français et en espagnol ?
Pas exactement. Le basque aussi s'est dialectalisé, c'est-à-dire qu'on a des dialectes différents. Des dialectes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un tout petit peu différent d'une région à une autre. Mais les différences ne sont pas simplement déterminées par les Pyrénées, mais ça peut être en France même, il y a des différences entre les différents dialectes. Ce que je voulais dire aussi, donc si on reprend l'histoire des dates, lorsque le premier texte écrit, les premières phrases écrites que nous connaissions, datent du Moyen-Âge. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils étaient là avant le 5e siècle, avant Jésus-Christ.
Mais ils n'écrivaient pas.
Et ils n'écrivaient pas. Et donc, les premières traces sont sur des pierres, disons. Et puis, le premier livre date du 16e siècle, 1535. C'est incroyable. Incroyable. Et pourtant, cette langue a survécu à tout. À toutes les arrivées de populations extrêmement différentes et qui avaient des langues différentes. Essayons de voir. Il y a d'abord eu les langues celtiques. Il y a eu donc les Gaulois. Rien du tout. Les Gaulois donnent l'impression d'avoir laissé le Pays basque de côté. C'est-à-dire qu'ils sont passés vers l'Espagne. Ils ont contourné. Voilà. Ils ont contourné. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir contourné. Ensuite, après les Gaulois, il y a eu les Romains qui sont arrivés. Romains, bon, ils ont laissé une certaine chose, certains traits, certains mots latins ont été empruntés par le basque. Par exemple, le mot pour dire la paix en latin, c'est pacem, à l'accusatif. Ça fait baquet. Vous voyez.
On entend un son semblable.
Ça ressemble un petit peu. C'est quand même articulé avec les deux lèvres. Hein. Bon. Donc, le latin a laissé des traces, un peu, quelques traces. Puis arrivent les Germains. Quels Germains ? Attention, on n'a pas n'importe quel Germain qui arrive dans cette région-là. Vous savez que les tribus germaniques étaient très, très nombreuses. On ne sait pas, on n'arrive pas à les suivre dans leur mouvement. Quand on commence à raconter l'histoire des langues de l'Europe, on n'arrive pas à très bien les suivre. Bon, il n'empêche que, en ce qui concerne le Pays basque, on a eu leur passage, c'était les Francs ne sont pas arrivés par là, non. Les Visigoths ont contourné aussi, sont allés vers l'Espagne en laissant quelque chose d'important en Espagne avec un art et avec une influence sur la langue.
Une vraie culture.
Ah oui. Et puis une influence sur la langue hispanique, j'allais dire, enfin le castillan qui va devenir la langue de l'Espagne, une grande influence jusqu'à l'arrivée des Arabes, 711. Donc. Voilà. Mais je suis toujours au Pays Basque. Au Pays Basque, non, ils ne sont pas passés là.
C'est ce que vous appelez dans votre livre une langue de résistance.
Résistance,
véritablement.
Voilà. Alors donc, les Arabes n'ont rien laissé. Et puis après ça, qu'est-ce qu'il y a eu ? Après, il y a eu l'influence du castillan, comme je disais. Le castillan qui commence à monter dans la péninsule ibérique. D'un côté, le castillan, de l'autre côté, le galaïco-portugais, comme on dit. Et puis, de l'autre côté des Pyrénées, la langue française qui commence, elle aussi, à faire de l'ombre à toutes les autres langues.
Voilà. Alors, quand Henriette Walter dit « faire de l'ombre », elle utilise tout de même des mots qui sont significatifs de votre position, Henriette Walter. Vous dites, j'ai quand même noté dans votre livre, que vous êtes vraiment farouchement opposé à l'uniformité linguistique. Hein. Vraiment, vous défendez la diversité linguistique. Vous écrivez que le français exerce une pression ou a exercé une pression sur les langues régionales, que la politique unificatrice ne les a pas pour autant supprimées. Vous parlez de résistance, mot très fort. Vous utilisez des adjectifs comme omniprésente pour la langue française et on sent bien que c'est un qualificatif flatteur. Cette langue française fait de l'ombre aux autres.
Oui, je peux pas dire que c'est pas flatteur. Je voulais dire que c'est vrai. C'est tout, c'est une réalité que je voudrais montrer et qui est tout à fait vraie.
Mais quand même, votre livre prend position.
Oui.
Prend position pour la diversité de ces langues.
Absolument, oui.
Alors, Henriette Walter, on s'est un peu attardé sur le basque, qui est effectivement une langue tout à fait à part, comme on le sait. On va peut-être passer plus en revue les autres, tout petit peu plus rapidement. Sinon, on aimerait bien s'attarder sur chacune d'entre elles. On se retrouve dans un court instant. Je rappelle le titre de votre livre, « Aventures et mésaventures des langues de France », Henriette Walter, paru aux éditions du Temps.
Les Français sont râleurs, tricheurs, corrigent leurs interlocuteurs et résistent à la mondialisation. C'est ainsi que Christophe Campos nous livre les stéréotypes des Français du point de vue des Canadiens et Québécois. Une émission éclairage qui ne manque pas de caractère, à télécharger librement sur Canal Académie.
Retour dans notre studio pour retrouver Henriette Walter, qui nous parle des langues de France à propos de son livre « Aventures et mésaventures de ces langues de France ». Henriette Walter, on a évoqué donc les langues qui ne sont pas issues du latin, on a parlé du basque. Maintenant, parlons du breton tout de même.
Voilà, alors
langue
là, c'est une langue celtique.
Comme on croit, mais
celtique, mais attention, ça n'est pas vraiment du gaulois. Hein, c'est pas du gaulois. Non, c'est une langue celtique qui nous est revenue, si j'ose dire, à partir du 5e siècle après Jésus-Christ, au moment où des populations germaniques ont quitté le continent pour s'installer dans le sud de l'Angleterre, les Angles, les Saxons et les Jutes qui se sont installés. Ces Germains ont repoussé les Celtes qui étaient là vers l'ouest et vers le nord. Ah, vers l'ouest, c'était quoi? C'était le pays de Galles. Aujourd'hui, le gallois est un reste de cette langue. Et puis, la Cornouaille britannique, qui est à l'extrême sud-ouest de la grande île de la Grande-Bretagne. Eh bien, au moment de l'invasion, de cette invasion germanique, eh bien, les Celtes ont quitté l'île et sont venus s'installer, où ça? Chez nous. Nous avons appelé ça la Bretagne.
Mais.
Parce que, attention.
Un mais déjà.
Attention, ah oui, mais attention, parce que ces gens-là venaient de Britannia, c'est-à-dire de la Bretagne. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas voulu dire la petite Bretagne. On a dit la grande Bretagne pour l'autre, et puis nous, c'est devenu la Bretagne. Voilà. C'était mieux.
Voilà. Cela dit, tous les gens qui habitent la Bretagne ne parlent pas breton. C'est ce que j'ai découvert dans votre livre. Et vous-même, je crois que vous avez été professeur à l'université de Haute-Bretagne. Parce que si elle n'est pas grande ni petite, au moins il y en a une haute.
Oui.
J'ai découvert ça, c'est-à-dire Rennes.
Exact.
Et les gens de Rennes et les gens de Nantes, qui appartiennent aussi à la Bretagne, je crois,
oui,
ne parlent pas breton celtique. Alors, qu'est-ce qu'ils parlent?
Non, alors ils parlent ce qu'on appelait le gallo. Le gallo qui est du latin. C'est du latin tel qu'il s'est développé dans cette région d'une manière un petit peu particulière. Le gallo ressemble un petit peu au normand, ressemble un petit peu à la langue parlée dans la Sarthe, etc. Mais pas du tout, il y a une grande limite qu'on ne peut pas franchir vers l'ouest. Parce que de l'autre côté, évidemment, il y a une langue celtique. Mais la frontière entre cette langue celtique et la langue romane en question n'a pas toujours été la même. Et à partir du 9e siècle, le breton a reculé vers l'ouest. Ce pauvre breton, ces pauvres langues celtiques qui ont toujours été repoussées vers l'ouest. À un certain moment, on se dit... Mais enfin, elles sont tombées dans l'eau.
Bah,
non,
oui,
attendez, oui et non. Parce qu'en fait, elles sont allées vers le 18e siècle, elles sont aussi allées en Amérique, c'est-à-dire dans les provinces maritimes du Canada.
Elles ont franchi l'océan.
Et oui, voilà, elles ont franchi l'océan. Donc, il y a eu des différenciations, là aussi, une dialectalisation. Il n'y a pas eu de langue bretonne dirigeante, disons. Et donc, elle a été repoussée vers l'ouest. Et aujourd'hui, il y a une continuation de cette langue sous deux formes. D'un côté, ce que les Bretons appellent le badum, c'est-à-dire la langue telle qu'elle est parlée chez eux. Ils disent c'est la langue de chez nous, disons, badum, hein, B-A-D-U-M-E. Et puis de l'autre côté, ben, la langue un petit peu... Or, universitaire, nous dirons, un peu uniformisé, que l'on enseigne dans les universités ou que certaines associations enseignent. Un petit problème là, parce que, évidemment, ceux qui ont grandi dans le badum et ceux qui ont appris, les plus jeunes, qui ont appris l'autre variété, se disent c'est pas tout à fait la même langue, c'est vrai, mais c'est des variétés.
Donc, pour comprendre que le breton, finalement, c'est un peu plus compliqué qu'on ne pense, il faut lire le livre d'Henriette Walter qui explique tout ça très clairement. Alors, un petit mot quand même sur le troisième groupe des langues germaniques, c'est-à-dire
alors nous avons. Alors, quand on pense langue germanique, on pense tout de suite à l'alsacien.
Voilà.
En deuxième position, on dit lorrain, parce que Alsace-Lorraine, n'est-ce pas? Et puis le flamand. Le flamand qui est séparé, qui est vers l'extrême nord de la France et qui ressemble beaucoup au néerlandais des Pays-Bas et à ce que l'on appelle le flamand aussi en Belgique. Simplement, comme ces populations ont été séparées depuis plusieurs siècles, le Westhoek, comme ils disent, c'est-à-dire le coin de l'ouest, c'est d'ailleurs chez nous, hein, notre flamand à nous, ce flamand, est beaucoup plus ancien. Il est, on pourrait dire, je ne veux pas dire un mot péjoratif, mais enfin, c'est un peu archaïque, disons, plus ancien, quoi. Voilà. Mais c'est pas péjoratif dans mon esprit. Hein.
Voilà.
C'est plus vieux. Voilà.
C'est plus ancien.
Voilà, c'est plus ancien. Donc, vous avez, en ce qui concerne le lorrain germanique, il s'agit d'une langue que les gens appellent le plate. Dans la région, ils aiment mieux dire plate. Hein. Et donc, bon, c'est une autre population qui a grandi là. Et puis, les Alsaciens, bien, les Alsaciens, ce sont les descendants des Alamans qui ont laissé cette belle langue chez eux.
Grâce à Henriette Walter, on sait maintenant tout ce que l'on doit aux Germains. Parce que finalement, ils ont eu beaucoup d'influence. D'influence sur les langues de France.
Tout à l'heure, je disais que les Francs ne sont pas arrivés jusqu'au Pays Basque. Mais ils sont arrivés, tout le nord de la France a été très influencé par la langue, le francique, qui a laissé beaucoup de vocabulaire, certaines formes, etc. Je ne vais peut-être pas insister parce que ça nous prendrait trop de temps. Mais peut-être une autre fois.
Peut-être. En tout tout cas, on comprend, Henriette Walter, en vous lisant, qu'on ne peut pas dissocier l'étude des langues de France, de l'histoire, évidemment, de France, et même de la politique.
Absolument, surtout en France.
Surtout en France.
Surtout en France, oui, oui, oui. Parce qu'en fait, dans d'autres pays, le gouvernement ne s'occupe pas tellement de la langue. Tandis que chez nous, l'État s'est toujours occupé de la langue.
Mais l'État s'occupe de tout chez nous.
Ah oui, on est formidable. Oui, oui, on est formidable. On est polyvalent, hein, bien entendu. Donc, c'est tout à fait vrai. Vous citiez tout à l'heure l'ordonnance de Villers-Cotterêts, la loi d'Exon, la loi sur la langue française plus tard, etc. Il est vrai qu'on fait ça. Et on aime ça, parce que en fait, une partie de notre identité, c'est notre langue. Mais nous avons, tout à l'heure vous disiez que je disais langue omniprésente, la langue française omniprésente, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de personnes unilingues qui ne parlent pas le français. C'est-à-dire, quand on est unilingue, on parle français en France. C'était pas vrai au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, on pouvait parler l'autre langue.
Voilà, l'autre langue.
Et quand on était bilingue, c'était la langue française qui était moins bien placée, si j'ose dire. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai.
Alors, parlons maintenant, Henriette Walter, donc après avoir passé en revue les langues non latines, donc qui sont plutôt d'origine celtique ou germanique, les langues romanes. Alors là, il y en a beaucoup aussi.
Alors, il y en a beaucoup et elles ont eu la chance... Oui, la chance de bénéficier d'un apport extraordinaire du latin. Hein. Les Gaulois se sont mis à apprendre le latin. Ils ont et ça s'est différencié,
Attends,
comme je disais.
Les Romains ont-ils appliqué une politique véritablement d'envahisseur en non. imposant une langue ?
Eh bien non, justement. Je pense que c'est pour ça que ça a très bien marché. C'est-à-dire qu'ils ont donné des avantages aux gens qui savaient le latin. Et donc, les Gaulois se sont dit, il faut absolument que nos enfants apprennent le latin.
C'est une promotion.
C'est une promotion et on nous apporte là, on considérait que c'était une civilisation qui arrivait, civilisation romaine et grecque en même temps, n'est-ce pas ? Parce que les Romains apportaient aussi le grec en même temps. Donc, il y a eu ce désir. Et cette langue s'est donc différenciée. On divise généralement le territoire français en trois parties. Dans le nord, langue d'Oïle, très influencée par les langues germaniques, par le francique. Le sud, langue d'oc. Et entre les deux, langue franco-provençal, variétés franco-provençales.
Moi, j'ai très envie qu'on parle du franco-provençal, parce que justement, comme tout le monde est naïvement, je pensais que c'était un mélange de français et provençal.
C'est-à-dire que c'est le linguiste italien Ascoli qui, au XIXe siècle, a voulu établir que ça n'était pas du tout, ça n'était pas du français mélangé à du provençal. Non, c'était une autre façon d'utiliser le latin dans cette région.
Alors, quelle est la région, justement,
alors,
la Provence.
Elle est où, cette région ? Voilà. Eh bien, on peut, pour fixer les idées, vous avez Lyon, en France, vous avez Genève, en Suisse, et vous avez le Val d'Ost, en Italie.
Ça, Lyon, Roanne et
voilà,
cette
exactement.
Du
Donc,
Forez,
ça, c'est, voilà. Ça c'est la région franco-provençale, avec une littérature que l'on peut retrouver, dont je donne certaines références. Une littérature un peu poétique, un peu amusante quelquefois. Vous savez, en ce qui concerne les langues régionales, très souvent, ça s'est réfugié dans soit la poésie, soit, au contraire, des choses un petit peu leste, disons, amusante, des choses de ce genre-là.
Alors, quelques mots tout de même pour détailler un tout petit peu les langues d'Oïle. Donc, ces langues qui sont
du
plutôt
nord.
Au nord. La frontière, ça situe quoi ? C'est toujours la Loire, à peu près ?
C'est un petit peu plus bas. Ça commence à l'estuaire de la Gironde. Ça remonte vers le nord du Massif central et ça se termine au début du franco-provençal, si j'ose dire.
Justement.
Voilà.
Alors, ces langues d'Oïle, comment on les classe ?
Alors, ces langues d'Oïle, elles ont été extrêmement influencées par la langue française. Bien sûr. C'est-à-dire que lorsque la langue française est devenue la langue du roi et que le royaume de France s'est étendu, cette langue s'est étendue aussi. Et elle a recouvert tout doucement les autres langues, qui ne sont pas mortes. C'est-à-dire qu'elle les a recouvertes, elles sont restées en sous-sol et elles ont continué à vivre leur belle vie jusqu'au moment de, vous citiez tout à l'heure l'abbé Grégoire, mais attendez, là, l'abbé Grégoire a dit qu'il faut absolument abolir les patois, mais il n'a pas réussi. Il faut le dire, tout de même.
Heureusement pour vous.
Heureusement, oui, c'est ça. Parce que comme vous savez, les linguistes, leur truc, c'est quoi ? Ben, c'est les langues.
Ben, plus il y a de patois,
s'il y a plus de langues,
qu'est-ce
qu'ils vont... Ben oui, plus il y en a, bien sûr, avec quelques particularités, etc. Et c'est une autre façon de voir le monde aussi. Hein, c'est pas, on n'est pas, il n'est pas nécessaire de partir au Brésil ou en Argentine ou en Afrique pour trouver des choses bizarres, différentes. Déjà sur notre terrain, nous avons ce qu'il faut pour
nous. Alors quelques
pour
exemples
nous.
De ces alors, langues d'huile.
Alors de ces langues d'huile. Alors nous avons dans le nord, ben, nous avons le Picard wallon. C'est quoi ça? C'est le ch'ti, enfin en particulier le ch'ti. Mais le ch'ti, c'est une petite région, c'est une façon de dire qui a été utilisée par les gens du Nord seulement jusqu'au moment où il y a eu ce film extraordinaire Bienvenue chez les ch'tis et qui a donné un petit peu de couleur sympathique au Nord. Parce que jusque-là, c'était quoi? Le Nord, c'était la région où il fait froid, où les gens sont un petit peu raides. Et puis on apprend quoi? Ce sont des personnes qui aiment s'amuser, qui ont une façon de parler un petit peu originale, un peu imagée, etc. Et on reconnaît certaines choses. Par exemple, on reconnaît que en ch'ti, enfin ch'ti ou picard, hein, je vais dire picard parce que c'est plus vaste, il y a par exemple le que du latin qui restait que, le gueule du latin qui restait que. Exemple pour dire la jambe, on dit la gambe. Et alors, qu'est-ce que nous disons, nous, en français? Il est arrivé sur ses gambettes.
Ben oui, c'est pour rire.
Hein, et
ça,
c'est devenu oui. Du français. Voilà. Et de temps en temps, ben, les langues régionales ont donné aussi à la langue française une petite couleur. Voilà. Alors, j'ai dit le nord. Je voudrais dire quelque chose du normand. Mm-hmm. Alors, le normand est une langue romane qui, elle, a subi l'influence du scandinave, puisque les vikings se sont installés un jour, comme vous savez, ils avaient été terribles. Les vikings au Moyen-Âge, on avait eu peur d'eux. On avait prié dans toutes les églises de France. Et d'Europe, on avait prié mon Dieu, délivrez-nous de la fureur des Normands. Normands, les gens du Nord,
Normands,
n'est-ce pas?
Vikings, oui. Vikings.
Et ils n'ont pas laissé grand-chose, sinon quelques influences sur cette langue normande, c'est-à-dire sur cette variété de latin telle qu'elle a évolué dans cette région. Et on a quelques noms de lieux, etc. Donc le normand, c'est ça. Et puis peut-être quelque chose sur le poitevin saintongeais. Alors évidemment, il y a une petite polémique à l'heure actuelle. Ceux qui disent attention, ne pas séparer poitevin et saintongeais. D'autres qui disent attention, il faut absolument les séparer. Je ne prendrai pas parti.
Bon, c'est noté.
C'est noté. Alors il y a maintenant les langues d'oc.
D'oc, alors
celle
on
du
passe
midi.
Au sud. Là.
Alors au sud, alors ça c'est...
On les connaît mieux d'ailleurs.
On les connaît mieux parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de films aussi. On a beaucoup apprécié l'accent de Fernandel, de Rému, de ces choses-là.
Et Henri IV.
Voilà.
Vraiment.
Et avant ça, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les troubadours. Les troubadours qui ont tellement influencé les langues du Nord. Cette invention de l'amour courtois, ça a été fait dans le Midi. Et c'est grâce à cette très belle poésie, très raffinée, que finalement la langue française s'est améliorée elle aussi. Hein? C'est vrai qu'elle est née dans le Nord, mais c'est vrai aussi qu'elle a beaucoup emprunté à la langue des troubadours. Car il ne faut pas oublier que troubadour et trouvère, c'est le même mot, qui a évolué différemment, troubadour dans le Midi et trouvère dans le Nord. Et les trouvères viennent après les troubadours, du point de vue de l'importance littéraire.
Il ne faut pas oublier dans toutes ces langues deux autres qui me semblent importantes aussi. C'est d'une part le corse,
oui,
et d'autre part le catalan. Qui est tout de même encore
voilà.
Parlé aussi.
Ah, exactement.
Alors, un petit mot sur le corse d'abord.
Oui. Alors le corse, c'est une des premières langues romanes installées sur notre territoire, même si à cette époque-là, ça n'était pas la France. Hein, faut pas oublier. Donc cette île a été occupée par les Romains, mais après elle a été occupée par beaucoup d'autres populations. Et cette langue corse s'est modelé avec une influence du toscan et du génois.
Donc c'est plutôt l'Italie que la France.
Voilà. Et donc à l'heure actuelle, quand on sait l'italien, on comprend pas mal le corse. Hein. J'ai fait des petits dessins. Je ne sais pas si vous avez remarqué des petits dessins pour la prononciation du r.
Oui, c'est ça.
C'était un drôle de.
Là où il faut mettre sa langue.
La langue, il faut la. Oui, c'est ça. Il faut la retourner pour, avec une prononciation rétroflexe, comme on dit, ou cacuminale. Parce que, évidemment, de temps en temps, on n'aime pas donner de termes techniques, mais de temps en temps, ils sont amusants et autant les retenir.
Un dernier mot, Henriette Walter, sur les langues, c'est justement les langues créoles. Parce qu'il faut tout de même en parler. Alors, elles sont, elles aussi, de nature diverse.
Alors, elles sont de nature diverse. Il y a plusieurs créoles. Il y a des créoles à base lexicale française, comme les nôtres, ou bien à base lexicale anglaise, ou néerlandaise, ou portugaise, voyez-vous. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que, en fait, dans tous les créoles, il y a la partie lexicale, qui est une partie venue d'Europe, disons. Ça peut être l'anglais, ça peut être le néerlandais, ça peut être le portugais, ça peut être le français. Et ça, c'est la partie lexicale. Et donc, quand on entend parler ce créole, on reconnaît ces mots qui ont été un peu transformés, etc. Mais la chose qu'on ne reconnaît pas, c'est la structure grammaticale. Et la structure grammaticale est une structure de langue africaine. Donc, on a là un très joli mélange dans des proportions diverses selon les créoles qui a grandi, qui a vécu, qui continue à vivre, qui invente des formes très imagé, très poétique. Quelquefois, c'est assez amusant de les entendre parler, dire « Ah oui, c'est ce mot-là », etc. Et aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que le créole, c'est la langue régionale la plus parlée sur un territoire. Parce que si vous allez en Guadeloupe, par exemple, 100% de la population guadeloupéenne parle le créole. Bien sûr, le français aussi, hein, je ne veux pas dire que ça empêche le français de vivre, mais enfin, le créole est vivant. Ils ont eu des problèmes, puisqu'ils n'avaient pas. C'était une langue non écrite jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps. Et aujourd'hui, on essaye de former des orthographes, disons, de cette langue pour l'écrire.
Henriette Walter, avant de nous quitter, est-il bénéfique pour un enfant d'apprendre, au fond, le patois ou le dialecte ou la langue régionale de ses parents?
Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est toujours intéressant d'apprendre deux langues. Je veux dire que les enfants bilingues sont des enfants privilégiés. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'habitude depuis leur plus jeune âge de ne pas confondre la langue et le monde. Puisque le monde peut se dire de deux façons différentes. Donc là, se dire, alors, est-ce que je vais choisir de lui faire apprendre une langue très, 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 très importante, comme l'anglais, par exemple, ou une autre langue d'un autre pays d'Europe, importante aussi, etc. Ou est-ce que je vais choisir une langue régionale? Alors, moi, je dis, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire que l'anglais, de toute façon, l'enfant va l'apprendre quand il sera en sixième ou avant maintenant. Hein. Bon. Mais ce qui est intéressant avec la langue régionale, c'est qu'il y a le côté affectif. C'est-à-dire qu'il y a le côté, il a déjà entendu ça dans la façon de parler de son grand-père ou de sa grand-mère. Et ça, c'est un côté qui le touche parce que les grands-parents ont raconté des histoires. C'est-à-dire que c'est lié à la région et c'est lié au plaisir et au fait que on l'aime, la grand-mère, et donc on a bien envie de la comprendre un petit peu mieux. Donc, apprendre une langue régionale, c'est aussi bon que d'apprendre une autre langue, avec cette différence que ensuite, quand on va grandir, si on a déjà été habitué à deux langues quand on est petit, eh bien la troisième va pas être tellement difficile à
acquérir. C'est une gymnastique qui est acquise.
Gymnastique, voilà. Et on n'aura pas cette difficulté qu'ont les unilingues quand tout d'un coup ils se trouvent devant une autre langue et qu'ils sont bloqués. Il y a un blocage psychologique qui n'existe pas chez les bilingues.
Merci Henriette Walter. Alors si vous parlez une langue régionale, n'hésitez pas à en parler à vos enfants ou petits-enfants, ça ne leur fera que du bien. Et surtout n'hésitez pas non plus à lire le livre d'Henriette Walter, qui est non seulement un livre savant où l'on apprend beaucoup de choses sur les langues, mais qui est aussi un livre ludique où l'on s'amuse. Henriette Walter a prévu de nombreux petits encadrés avec des devinettes, des interrogations. Donc on s'amuse aussi beaucoup à le lire. Merci Henriette Walter d'être venue nous présenter « Aventures et mésaventures des langues de France » paru aux éditions du Temps.
Merci.
À bientôt.